demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 3 février, la crue du Rhône et de la Saône se poursuit. Les berges du Rhône sont coupées sous les ponts. Tous les indicateurs épidémiologiques du Covid-19 sont marqués par un fléchissement en ce qui concerne le département du Rhône. Emmanuel Macron a assuré que d'ici la fin de l'été, tout le monde se serait vu proposer un vaccin. En tout cas, tous les Français qui le souhaitent pourront être vaccinés, selon lui. Dans le Rhône, les enseignes Flunch de Givors, Saint-Genis-Laval et Vénissieux devraient fermer. Le projet de piétonnisation sur une partie du cours Charlemagne à Confluence à partir de mi-mars. Nous écouterons le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver, vent debout contre ce projet. Dans cette édition, les élus écologistes nous expliqueront également les bienfaits qu'ils voient dans cette piétonnisation. Manifestation hier des éleveurs, maraîchers, céréaliers et autres arboriculteurs contre le plan pollinisateur. Pas de confinement pour les trafiquants, les services douaniers n'ont pas chômé en 2020. Et puis du football, ce soir, l'Olympique lyonnais se déplace à Dijon.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, ce coup de théâtre à Givors, les juges du tribunal administratif de Lyon prononcent l'annulation des élections municipales après le recours de l'ancienne maire communiste Christiane Charnay, Étienne Tête, l'avocat de l'actuel maire d'hiver gauche écologiste Mohamed Bouadjelaba, annonce qu'il fera appel de cette décision. Il faudra donc sans doute attendre l'arrêt du Conseil d'État pour savoir si oui ou non les Givordins devront de nouveau retourner aux urnes au cours des prochains mois. En attendant, les magistrats ont reconnu la validité des arguments sous par l'ex-maire. Celle-ci estimait que des pressions avaient été exercées le 28 juin sur les électeurs des bureaux de vote du quartier des Vernes. Mohamed Bouadjelaba avait remporté les municipales avec seulement 29 voix d'avance. La Saône et le Rhône figurent en jaune à Lyon et en amont de la capitale des Gaules sur les cartes Vigicru. En hausse continue depuis plusieurs jours, le niveau de la Saône devrait encore s'élever dans les prochaines heures. Au pont La Feuillée, la hauteur d'eau de la rivière était de 3,97 m hier soir. Elle pourrait s'établir à 4,08 m ce soir. Des niveaux qui restent toutefois bien éloignés des crues historiques, comme par exemple les 6,50 m atteints en 1955. À Lyon, la légère crue du Rhône pourrait légèrement fluctuer, mais globalement se stabiliser. À hauteur du pont Morand, le fleuve atteignait 2,62 m hier soir, bien loin des niveaux constatés au même endroit en novembre 44 avec 6,02 m.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Tous les indicateurs épidémiologiques du Covid-19 sont marqués par un fléchissement dans le Rhône. Le nombre de patients hospitalisés repasse sous la barre des 900 pour la première fois depuis le 13 janvier. 892 patients sont hospitalisés, 29 de moins. 144 en réanimation, là aussi 8 en moins. Au cours des dernières 24 heures, 52 nouveaux patients ont toutefois été admis, dont 7 en réanimation. Avec 7 nouveaux décès, le nombre de patients décédés à l'hôpital s'élève désormais à 2205 dans le département depuis le 1er mars. Les taux d'incidence sont eux aussi orientés légèrement à la baisse. 229 pour 100 000 dans le Rhône, 237 pour 100 000 dans la métropole. Le taux de positivité redescend à 7,4%. 404 malades du Covid sont morts à l'hôpital ces dernières 24 heures en France. Emmanuel Macron a assuré que d'ici la fin de l'été, nous aurons proposé un vaccin à tous les Français qui le souhaitent, dit-il. Il a aussi estimé que début mars auront été vaccinés les 80% des pensionnaires des EHPAD qui le souhaitent. Le contrôle du couvre-feu a dégénéré samedi soir à Corba. 5 personnes ont été interpellées dans le quartier des Balmes, notamment pour des violences et des outrages sur les gendarmes, des jeunes connus des forces de l'ordre. En proie à des difficultés, la chaîne de restauration Flunch a décidé de céder 57 restaurants à travers la France. Dans le Rhône, les enseignes de Givors, Saint-Genis-Laval et Vénissieux sont concernées. Flunch se donne entre 6 et 8 mois pour trouver des solutions de reprise au cas par cas. En 2020, du fait de la crise sanitaire, Flunch a accusé une baisse de 57% de son chiffre d'affaires.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Les voitures interdites sur une partie du cours Charlemagne à partir de mi-mars. Une portion d'un peu plus de 200 mètres au droit de la Darse et du centre commercial sera réservée aux piétons, cyclistes et autres modes doux. Le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver, est vent debout contre ce projet qui, selon lui, risque de provoquer un engorgement du quartier. Pierre Oliver.
Aujourd'hui, les seuls bouchons qu'on a sur le cours Charlemagne sont le samedi après-midi pour l'accès au centre commercial de la Confluence. Et à l'arrivée de la nouvelle majorité dans le 2e arrondissement, nous avions écrit à la métropole pour installer une signalisation pour tourner à droite dans le sens nord-sud pour accéder au parking de la Confluence, puisque le point de bouchon principal était précisément ici. Ce qui a été fait, et donc aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à comprendre quelle est l'utilité de cette mesure.
Se réapproprier l'espace et limiter un petit peu la place de la voiture, c'est pas judicieux pour vous aujourd'hui en 2020? 2021 ?
Limiter la place de la voiture, oui, c'est intelligent. Cependant, est-ce que c'est sur ce périmètre-là qu'il faut le faire ? Je rappellerai simplement qu'aujourd'hui, le cours Charlemagne est, en termes de mobilité douce, l'un des axes les mieux conçus, puisque vous avez des pistes cyclables, des trottoirs relativement larges, un tram et un seul accès, je dirais, pour les véhicules automobiles. Donc, de ce point de vue-là, les mobilités douces et la place de la voiture sont relativement réduites. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette décision punitive pour les habitants de la confluence.
Pourquoi punitive ?
Punitive parce que aujourd'hui, c'est toutes ces personnes qui ne peuvent pas soit aller à leur travail par des modes doux, c'est-à-dire trottinette, vélo, marche à pied ou tram, qui seront punis. Et malheureusement, l'ensemble des habitants de la confluence ne travaillent pas, n'ont pas leur bureau ou leur entreprise sur l'axe du T1 ou du T2.
On a donc essayé d'en savoir plus sur ce projet écologiste tant décrié. D'abord, les écolos présentent cette piétonnisation partielle du cours Charlemagne comme une expérimentation prévue pour durer jusqu'à la fin de l'été. Ce qui justifie ce réaménagement, ce serait le prolongement du tramway T2 jusqu'au pôle de commerce Confluence. Les explications de Fabien Bagnon, vice-président de la métropole en charge de la voirie et des mobilités actives.
Ce carrefour, Montrachet-Charlemagne, qui est extrêmement compliqué avec énormément de voitures, allait totalement se saturer. Donc il s'agit de le simplifier. Et donc les services nous proposaient effectivement d'interrompre la circulation entre Montrachet et puis le quai Ribou. À cette occasion, nous lançons cette expérimentation pour occuper cet espace, pour donner à voir le gain en termes de qualité de vie, de qualité d'usage. Donc on va avoir des espaces notamment permettant de déjeuner, des espaces mieux définis pour la progression des cyclistes, des espaces également mieux définis pour les piétons, élargis, puisqu'on sait qu'il y a des flux de piétons extrêmement importants, et notamment ceux qui descendent de la station de tramway, avec des flux qui vont augmenter considérablement, puisqu'on va passer d'une ligne de tramway à deux lignes de tramway, avec une desserte aux heures de pointe d'un tramway toutes les 2 minutes 30.
Expliquez-nous comment on fait, comment en bloquant un secteur, on arrive à le fluidifier.
Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais effectivement, c'est la question vraiment des carrefours à feu. Voilà, donc c'est extrêmement technique. Là, on a une voie supplémentaire, en fait, qui est liée à l'arrivée du T2. Ça s'appelle un tiroir de retournement. Ça permet, en fait, au tramway de se retourner. Et du coup, cette nouvelle voie de tramway, en fait, vient complexifier ce carrefour. Donc, il doit y avoir une phase supplémentaire de feu qui donne la priorité au tramway. Et une phase supplémentaire de feu pour le tramway, c'est du temps en moins pour les automobiles. Et là, en simplifiant son fonctionnement, en fait, en enlevant une branche automobile, on va dire un carrefour à 4 branches, paradoxalement, on va arriver à un carrefour qui va mieux fonctionner et une accessibilité du parking, notamment du centre commercial de la Confluence, qui va être améliorée. Voilà. On aura des reports de flux, notamment sur le quai PRH. L'expérimentation va permettre de les quantifier plus précisément. Nos études de circulation ne nous alertent pas par rapport à ces reports. Par contre, clairement, nous alertaient quant au fonctionnement de ce carrefour si on ne faisait rien.
Concrètement, les voitures ne seront plus autorisées à circuler entre le quai Antoine Ribou, qui longe la Darse, et la rue Montrachet, desservant les parkings du centre commercial. À la place, des espaces seront créés avec des aménagements pour différents publics. Valentin Lundgenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge de la mobilité.
On va aménager du mobilier. Ça peut être des tables, ça peut être des pergolas, des chaises longues. Ben, on est en train justement de regarder concrètement à quoi ça peut ressembler. Lors de la réunion publique, on présente des images de référence, hein, comme ça peut être le cas dans d'autres grandes villes, à Barcelone ou à Milan, où justement du mobilier a été installé. Mais l'objectif, c'est bien de répondre aux remontées qu'on a eues pendant cette consultation, à savoir le besoin d'un espace aussi récréatif, de loisirs pour les enfants.
Ce secteur du confluent, construit dans les années 2000, est réputé pour sa minéralité. En été, difficile de trouver ombrage. La piétonnisation sera accompagnée par la plantation de 34 arbres, installés, eux, de façon définitive. Pierre Athanase, vice-président de la métropole en charge de l'environnement.
Là, il faut bien comprendre qu'on est typiquement dans un îlot de chaleur. Hein, vraiment une situation qui, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois de l'été, est juste invivable. On peut s'y arrêter, manger un sandwich, puis on s'en va vite chercher de l'ombre. On va déjà planter 31 arbres de plus, de façon à végétaliser du côté de la Darse et de renforcer la végétalisation sur l'esplanade François Mitterrand. On va le faire en densifiant, en essayant un petit peu de changer les pratiques de plantation qui se faisaient, où jusqu'à maintenant on plantait les arbres un petit peu individuellement, de façon à ce que les houppiers soient au maximum. Là, on va plutôt recréer des ambiances forestières en rapprochant les arbres, de façon justement à essayer de bien travailler sur la température au sol, sur la température ressentie par les habitants, et de créer vraiment cette ambiance forestière qui est aussi, au niveau de la biodiversité, assez intéressante. On est contraint, évidemment, sur un site qui est très minérale, et en plus avec la darse qui va nous refléter énormément de rayons du soleil l'après-midi. Donc on va être limité dans la gamme de végétaux qu'on peut mettre. Il va falloir des arbres qui soient résistants à l'échaudure. On a un panel insuffisant, donc on va essayer de faire quelque chose d'intéressant pour tout de suite. Donc là, on répond dès maintenant. Et ce qu'on va proposer aux réunions publiques, c'est si le projet doit perdurer, c'est de venir planter sur les actuels trottoirs. On s'est déjà assuré techniquement que ces plantations étaient possibles et on a fait faire des études de réseau par les services. Donc c'est des choses qui sont possibles. On n'est pas dans quelque chose d'utopique.
Le bilan de cette expérimentation sera dressé en septembre. En attendant, de nombreuses consultations sont prévues. À commencer par une réunion publique programmée ce soir à 18h30 en mode virtuel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook Ma Confluence.
Lyon demain, la radio sans pub.
Éleveurs, maraîchers, céréaliers, arboriculteurs et même apiculteurs se sont rassemblés hier devant le laboratoire lyonnais de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES. Ils s'élèvent contre le plan pollinisateur qui fera prochainement l'objet d'une consultation publique. Il prévoit l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires s'il y a des fleurs dans les vergers. Le plan pollinisateur s'appuie sur une recommandation de l'ANSES visant à protéger les abeilles domestiques et les insectes pollinisateurs sauvages. L'apiculteur présent a expliqué que les produits phytosanitaires ne représentaient que 5% de la mortalité des abeilles, alors que certains acariens, c'est 20 à 30% de mortalité dans les ruches, précise-t-il. Pas de confinement pour les trafiquants. Les services douaniers ont intercepté plus de 5 tonnes de stupéfiants en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020, soit près de 1200 saisies en dépit du contexte épidémique. En revanche, il y a une baisse des quantités liées aux restrictions des flux, liées aux contraintes sanitaires. L'achat de stupéfiants via le e-commerce a été en forte hausse. Les brigades de douane ont dû s'adapter pour débusquer les trafiquants, avec un renforcement des contrôles dans les centres de fret express et postal. Ces contrôles ont représenté une saisie de stupéfiants sur 4.
Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Ce mercredi, 23e journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais a la possibilité de renforcer sa place sur le podium et pourquoi pas de reprendre la tête du classement. Le dauphin de Lille, qui compte 2 points de retard seulement, se déplace à Dijon, classé 19e, avant de recevoir une autre équipe faible au classement, Strasbourg, dimanche pour la 24e journée. Tennis, le tournoi WTA de Lyon se tiendra à la halle Tony Garnier du 27 février au 7 mars et non pas au Palais des Sports de Gerland. Les organisateurs et la ville de Lyon ont pris cette décision pour ne pas gêner le centre de dépistage et de vaccination contre le Covid, installé, on le sait, depuis plusieurs mois au Palais des Sports. Pour le tournoi de tennis, les possibilités d'accueil du public dépendront des restrictions liées aux conditions sanitaires à la date du tournoi. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.